Orléans Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, le soufisme est-il dangereux? Ce courant de l'islam qui pratique une religion spirituelle, marquée par un art de vivre contemplatif et poétique, est pourtant la cible des autorités religieuses en Iran, en Égypte, en Turquie ou en Libye. Mais ses principaux adversaires restent sans aucun doute le salafisme et le wahhabisme, nous dira l'écrivain et islamologue arabisant Éric Geoffroy. La Tunisie vote ce week-end. 13 000 personnes sont candidates à l'un des 217 sièges de députés. Parmi elles, beaucoup de femmes de toutes tendances. Plusieurs d'entre elles ont débattu cette semaine dans l'émission de Nermat El Matari sur Monte-Carlo d'Oualia. À suivre également, la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Éric Geoffroy, bonjour.
Bonjour.
Islamologue, vous avez publié l'an dernier « Le soufisme » aux éditions Erol. Le soufisme dont les adeptes sont en butte à une répression récurrente dans plusieurs pays, dont l'Iran, dont nous parlerons tout à l'heure. Alors le soufisme, Éric Geoffroy, est-ce une façon particulière de pratiquer la religion musulmane? Vous-même, vous parlez de méthode spirituelle.
Oui, alors, en fait, à vrai dire, sur le plan du principe comme de l'histoire, le soufisme se veut le cœur de l'islam, c'est le cœur intérieur, le cœur spirituel du vécu islamique et de la pratique islamique dans le monde sunnite. Donc, c'est pour ça que par rapport à l'Iran, donc, on pourra en parler un petit peu. On va dire que le soufisme est la dimension spirituelle, intérieure, ésotérique du vécu musulman. Et ce, donc, depuis comme les premiers siècles de l'islam. C'est comme quelque chose qui est ancré très anciennement et depuis, on va dire, surtout l'imam Razali qui est mort en 1111, fin du 11e siècle, jusqu'au moins jusqu'à la fin du 19e siècle, le 20e siècle était un peu plus partagé, et bien le soufisme a été vraiment une dimension vraiment très très présente, omniprésente dans la culture islamique globale.
Alors, est-ce que c'est une façon répandue aujourd'hui de pratiquer l'islam au 21e siècle ?
C'est vrai que dans les années 1920, 30, 50, il y avait un réformisme musulman, des fois un petit peu abrupt parce qu'il était face aux puissances coloniales. Il y a eu après donc les régimes arabes, notamment donc indépendantistes et donc indépendants très modernistes et qui voyaient parfois donc les pratiques confrériques comme déviantes ou pas utiles au progrès social, etc. Mais depuis les années 1980, le soufisme connaît, ça c'est les observateurs qui le disent, globalement un regain. Alors, c'est-à-dire que le salafisme, sans parler du djihadisme, progresse, mais en même temps, bon, on en parle moins évidemment, le soufisme lui aussi reprogresse, je dirais, dans les sociétés musulmanes globalement.
Est-ce qu'on retrouve le soufisme dans toutes les formes de l'islam, le sunnisme, mais aussi le chiisme ?
Dans le cadre historique surtout, il faut dire que non, le soufisme, et enfin surtout l'expression, donc encore une fois mystique, spirituelle, donc de l'islam sunnite. Si je prends le cas de l'Iran, précisément, en fait on sait que jusqu'à l'an 1500, enfin 1500, l'Iran était à la fois sunnite et chiite, et même il y avait une majorité donc de sunnites. Et lorsque Shah Ismail, donc le premier dynaste des Safavides, prend le pouvoir, donc en Iran, envahit l'Iran, donc au tout début du XVIe siècle, vers 1503, 1504, etc., et les Safavides vont imposer le chiisme, donc duodécimain, tel qu'on le connaît actuellement, et ils ont été très violents, à l'époque, avec les soufis. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois banni le mot arabe pour désigner le soufisme, c'est-à-dire le mot tasawuf, ils ont banni le terme, ils ont mis donc un autre terme, bon, plus propre à leur démarche, et ils ont aussi donc chassé des soufis. Et la chose s'est reproduite, peut-être moins globalement, mais quand même assez fortement, avec la révolution de Kéranienne en 1979, Roménie, et les autres ont aussi persécuté les soufis.
Alors pour quelle raison, Éric Geoffroy, précisément, le soufisme est-il tellement persécuté? On le voit en Iran, mais on le voit aussi en Libye, on l'entend en Égypte, ou même au Mali, où des tombeaux ont été détruits à Tombouctou. Est-ce parce que le soufisme sait aussi pratiquer d'une manière plus personnelle la religion, avec un peu plus de liberté?
Disons que, avec tous les mouvements islamistes et djihadistes, a fortiori, on est dans des pratiques de rupture. Ce sont des gens qui, en fait, bon, qui veulent la rupture entre le monde musulman et l'Occident, entre l'islam traditionnel, enfin, tel qu'il était vécu, notamment dans les zaouïas, c'est-à-dire dans les bâtiments, séculairement, donc, dédiés au soufisme. Et ces groupes, donc, qui sont des idéologues et non pas des savants musulmans. Et bien sûr, ils ont une connaissance et un vécu de l'islam extrêmement frustre souvent, et là je parle des salafistes. Bon, les djihadistes, bon, là carrément c'est de la récupération idéologique, bon, et sous couvert de religion, quoi. Il faut dire que leur connaissance de l'islam est frustre, et on a souvent opposé, d'ailleurs après les attentats du 11 septembre 2001, on a souvent opposé dans les médias, y compris les occidentaux, l'islam urbain, donc des grandes villes traditionnelles, bon, Bagdad avant, Fès, Damas, Le Caire, vous voyez, enfin, donc un islam assez polissé, donc assez subtil, assez nuancé. Donc, on l'opposait à cet islam, donc, bédouin. Bon, ben, en fait, issu d'Arabie Saoudite, il faut le dire. Et qui a pour nom, donc, le wahhabisme. Il est né vers 1750, hein, qui a une vieille histoire et qui a fécondé, si je puis dire, divers groupes islamistes, salafistes dans le monde. Et l'Arabie s'en mord les doigts. Vous voyez, parce que, actuellement, je veux dire, le pouvoir saoudien cherche d'ailleurs à prendre du recul avec le clergé wahhabite. Et voilà. Donc, ces salafistes, là, bon, en fait, on l'a bien vu, enfin, Tombouctou, mais aussi en Tunisie, en fait, ils ont brûlé plusieurs, mausolées de saints. Donc, ils brûlent les manuscrits. En fait, ils détruisent aussi l'architecture traditionnelle sous prétexte que, etc. Soi-disant, ils se réfèrent aux salafs, c'est-à-dire aux premières générations, donc, de musulmans qui, dans leur vue obtuse, étroite, sont censés représenter le vécu musulman, en fait, idéal. Mais ce qu'il faut dire, et je ne suis pas seul à le dire, bien sûr, c'est que les premières générations de musulmans est extrêmement plurielle, est extrêmement nuancée, est extrêmement audacieuse, parce que l'islam s'est répandu très vite en Iran, en Inde, dans l'Empire byzantin, et a absorbé, en fait, toutes les cultures de l'époque. Or, ces gens-là, les salafistes actuels, sont des gens extrêmement fermés, qui sont sur la défensive. Non à l'Occident, non à la mondialisation, etc. Vous voyez, alors que ces premières générations de musulmans, eux, au contraire, ils ont pris tout ce qu'il y avait de meilleur de la Grèce ancienne, de la religion d'Iran, de le christianisme oriental, etc., etc. Donc, ça n'a rien à voir, que je veux dire, c'est vraiment une imposture. Et paradoxalement, tout ce qui est salafisme et donc djihadisme est en fait minoritaire. Une étudiante a fait une thèse avec moi, elle montrait que il y a plus de sites internet consacrés au soufisme que les sites internet tenus par les salafistes. Et pourtant, on parle plus des salafistes et des djihadistes, moi, parce que c'est eux qu'on voit et ceux qui se montrent, ils savent se montrer. C'est-à-dire qu'en fait, ils font de la com. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est...
Merci, Éric Geoffroy, islamologue, maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Notre entretien a été réalisé grâce aux studios et moyens techniques de France Bleu Alsace, la radio locale de Radio France à Strasbourg, que je remercie ici. Ajoutons, Éric Geoffroy, que vous publiez un nouvel ouvrage, Un éblouissement sans fin, la poésie dans le soufisme. Merci Éric Geoffroy.
Merci à vous.
Moment politique important demain dimanche en Tunisie. Ce sont les élections législatives, les premières depuis la révolution de 2011. Nous en parlons avec Nermat El Matari, qui anime chaque jour sur Monte Carlo Dwalia une émission de société qui s'appelle Hayat Warnas en arabe, la vie et les gens en français. Et mercredi, Nermat, vous aviez 6 invités en plateau, que des femmes.
Oui.
Pour quelle raison ?
Parce qu'on voulait parler des femmes comme participants dans l'élection et comme aussi...
Votants
aussi. C'est important parce que c'est plus que 50% de la société en Tunisie, c'est des femmes. 52, je pense, maintenant. Et on voulait savoir, avec le Nahda, avec Hizb al-Nahda islamique, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la femme, il a toujours peur de choisir d'autres femmes ? Bien sûr, j'ai invité 6 femmes, 5 partis politiques, bien sûr, Nahda, et d'autres partis, libéraux,
centristes,
de tous les partis importants en Tunisie, des femmes, bien sûr, elles sont sur la tête de liste de chaque parti politique.
Donc, certaines étaient candidates.
Les 5, elles étaient candidates. Pour ça, on a parlé de qu'est-ce qu'elles vont faire pour les femmes et ce qui était fait pour les femmes. Et bien sûr, elles étaient tous d'accord sur la situation des femmes, qu'elles sont les meilleures du monde arabe, bien sûr, depuis 56, mais qu'il faut garder qu'est-ce qu'elles ont eu comme, bien sûr, de droits, tout ça, et améliorer la situation des femmes. L'égalité, le droit de travailler, plein de choses. Ça veut dire c'est des paroles électorale, à mon avis. On va voir après qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai qu'est-ce qu'elles disent ou c'est juste des paroles comme ça ?
Mais est-ce que la question des femmes est une question centrale et essentielle en Tunisie aujourd'hui pour l'évolution de la société ?
C'est important, bien sûr. Il y a plein de choses, il faut parler sur les femmes. La religion, ça c'est important.
Ces femmes, justement, elles pensent que la religion doit jouer un rôle dans la société.
Pas toujours. El Nahda, bien sûr, c'est normal. C'est leur gain-pain. C'est eux le parti, bien sûr, entre guillemets, islamique en Tunisie. Et les autres, ils sont pas tout à fait d'accord. Et ils ont peur maintenant, dans les nouvelles constitutions en Tunisie, c'était écrit « le religion musulmane, c'est la religion d'État ». Ils sont pas tout à fait d'accord que ce soit la religion d'État. C'est la religion de la société, mais pas religion d'État. Il y a différence en arabe, si vous comprenez. C'est pas la même chose. Eux, ils veulent pas que soit vraiment le religion d'État. Et bien sûr, ils étaient avec nous un juge qui est aussi qui va rentrer dans les élections présidentielles. Il est nommé pour la présidence.
Donc c'était la sixième invitée qui ne se présente pas à ces législatives, mais aux présidentielles dans 4 semaines.
Oui. Et elle était très intéressante parce que elle parlait de situation de femmes et elle a dit c'est une des priorités qu'il faut parler maintenant et qu'il faut améliorer leur situation et plein. Il faut pas s'arrêter à qu'est-ce qu'elle a eu les femmes tunisiennes, mais demander un peu plus et spécialement l'égalité hommes et femmes. Et la femme de parti Nahda, elle était pas d'accord. Elle a dit, vous parlez toujours mal de nous. Les gens, ils ont pas peur maintenant de Nahda. Ils sont avec Nahda. Et bien sûr, Eric, c'était important que je parle avec les femmes dans la rue de Tunisie. Qu'est-ce qu'elles pensent de ces femmes-là? Est-ce qu'elles vont voter pour eux? Et le point de vue, il était mitigé. Il y a qui disent ils sont sur la tête de liste, mais ils sont pas dans les pouvoirs politiques. Elles peuvent pas décider des choses dans leur parti. Et d'autres, elles ont dit, on va voir qu'est-ce qu'elles vont nous faire. Est-ce que c'est juste une image, elles l'ont mis sur la tête juste pour qu'on vote pour eux, ou c'est vraiment, ils pensent, ces partis, que les femmes, elles peuvent changer les choses, elles peuvent faire quelque chose.
Donc beaucoup d'espoir et aussi un peu d'inquiétude. Merci Nermat El Matari. Je rappelle que vous animez chaque jour sur Monte Carlo d'Olia une émission qui s'appelle Hayat Wa Nas.
Oui, et c'est un débat société sur la société arabe.
Merci.
Merci Eric.
Nous prenons maintenant la direction du Caire et de Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, les Kurdes de Syrie se sentent abandonnés par tout le monde. C'est ce qui ressort en tout cas d'une interview du chef du parti kurde syrien d'Al-Sharq Al-Awsat.
Salah Muslim commence par critiquer la coalition anti-État islamique. Selon lui, les frappes aériennes contre ce que la presse arabe appelle Daesh, tout comme l'aide aux Kurdes de la ville assiégée de Kobané à la frontière syro-turque, sont totalement insuffisantes. Muslim accuse aussi la Turquie de soutenir directement et indirectement Daesh. Il a invité la Turquie à mettre un terme à la kurdophobie. Les Kurdes, précise-t-il, ont abandonné le rêve d'un État et la remise en cause des frontières existantes. Il a enfin appelé la rébellion syrienne à se débarrasser de l'hégémonie turque et à s'installer dans le Kurdistan syrien, d'où ils pourront opérer.
Et puis Alexandre, après avoir déclaré la guerre à l'organisation de l'État islamique sur le terrain, la coalition internationale s'apprête à la combattre sur Internet et aussi sur les chairs des mosquées.
Selon Al-Quds Al-Arabi, les Américains ont organisé une conférence qui se tiendra la semaine prochaine au Koweït. L'objectif est de coordonner les efforts et d'échanger les informations pour renforcer la coalition anti-Daesh. Parmi les participants, il y aura les Américains, les Anglais et les Français, ainsi que les Saoudiens, les Émiratiens, les Irakiens, les Jordaniens et les Qatariens. La principale question à l'ordre du jour, contrer les campagnes de Daesh pour attirer les djihadistes via les réseaux sociaux sur Internet. Par ailleurs, la grande mosquée d'Al-Azhar a annoncé qu'elle organisera en décembre une conférence au Caire pour combattre islamiquement le prétendu État islamique.
À la une de la presse israélienne, Michel Paul, toujours cette tension à Jérusalem.
Oui, une ville en guerre, une petite intifada ou la guerre de Jérusalem, eh bien ce sont quelques-uns des titres de la presse israélienne qui viennent illustrer ce week-end la tension qui règne à Jérusalem et qui a atteint un nouveau paroxysme cette semaine avec un attentat à la voiture dans une station de tramway de la ville. Bilan, un bébé de 3 mois tué et l'auteur de l'attentat abattu. Alerte maximale à Jérusalem, titre Yediot Aharonot, avec un dispositif renforcé de milliers de policiers et soldats dans la ville et particulièrement à Jérusalem-Est. Selon le journal, les forces de sécurité vont notamment utiliser des drones dans le ciel de la ville sainte dans le but d'identifier les fauteurs de troubles. La presse fait remarquer que la tension à Jérusalem n'est pas retombée après les événements de l'été dernier, notamment l'immolation par le feu du jeune Mohamed Aboukhder. Particulièrement visé, ce qui devait être le symbole de la coexistence dans la ville, le tramway de Jérusalem, qui traverse un camp de réfugiés palestiniens pour arriver dans le quartier de colonisation de Pisgat Zeev. Effrayant, résumé un passager à l'issue d'un trajet au cours duquel le train était attaqué à coups de pierre et de cocktails Molotov. Et puis, l'éditorial du Haaretz s'est consacré à cette situation. « Ce n'est pas par la force que l'on ramènera le calme à Jérusalem », proclame le journal.
En effet, effrayant et décourageant. Et puis Michel, une annonce publiée par avance dans le quotidien Haaretz qui risque de mettre de l'huile sur le feu.
Oui, c'est le moment choisi pour la promotion de 1600 unités de construction dans la partie orientale de Jérusalem. Une commission municipale se penchera sur ce dossier au début de la semaine prochaine. Il s'agit de mise en chantier contestée dans le quartier de Ramat Shlomo. Dans le passé, la publication d'appels d'offres pour la construction de nouveaux logements dans ce même quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem avait provoqué des frictions dans les relations entre Israël et les États-Unis.
Alexandre Bouchanti, le journal Alayat, publie un grand reportage sur le mariage des mineurs en Jordanie.
Les poupées aux rêves brisés, titre Al-Haya. Le reportage indique que la Jordanie a bien édicté une loi pour interdire le mariage des mineurs en 2001, mais cette loi n'est en fait que du décor puisqu'elle contient une faille énorme. La loi permet le mariage des mineurs de 15 ans en cas de nécessité. Une nécessité dont la définition est laissée à la discrétion du juge des affaires du statut personnel. Résultat, l'exception est devenue la règle puisque entre 8 et 10 000 mineurs sont mariés chaque année, 13% de tous les actes de mariage.
Toujours concernant les femmes, Alexandre, le ministre saoudien de l'Intérieur met en garde contre une manifestation appelant à permettre aux femmes de conduire.
Une mise en garde reprise par tous les journaux saoudiens qui rappellent que l'année dernière, des militantes pour le droit de conduire avaient violé la loi en prenant le volant. Cette année, les autorités qui surveillent les réseaux sociaux veulent prévenir la manifestation à laquelle appellent des pages Facebook et des comptes sur Twitter. Ils veulent combattre les extrémistes de l'État islamique alors qu'ils appliquent déjà ce que réclame Daesh, ont répondu de nombreux internautes.
Dans la presse israélienne également, Michel, de nouveaux sondages.
Oui Eric, un élément nouveau dans le paysage politique israélien qui est à même de changer la donne. Moshe Kahlon, un ancien ministre du Likoud très populaire auprès des Israéliens, annonce qu'il fonde son propre parti. En cas d'élection, les sondages lui donnent 10 sièges sur les 120 que compte la Knesset, au détriment notamment du parti Yesh Atid du ministre des Finances. Mais le Likoud et son leader Benjamin Netanyahu arrivent toujours en tête et de loin devant les autres candidats et partis politiques.
Oui, Bibi, toujours le meilleur. Et puis Michel, un nouveau rebondissement dans l'affaire qui touche les sphères sécuritaires en Israël.
Oui, c'est une histoire compliquée qui fait les titres depuis plusieurs années et dont les protagonistes sont l'ancien ministre de la Défense, Ehud Barak, un ancien chef d'état-major et plusieurs généraux. Eric, sans entrer dans les détails, on a parlé d'une véritable tentative de putsch autour de la nomination d'un nouveau commandant en chef de l'armée israélienne. L'élément nouveau, eh bien, c'est que des enregistrements des conversations tenues par Ehud Barak et qui avaient mystérieusement disparu ont été retrouvés dans un coffre du ministère de la Défense. Affaire à suivre, comme on dit.
Allez, pour conclure, Michel Paul, votre photo du jour, quelle est-elle ?
Bien, l'image du jour, ce sont deux cadrans horaires qui figurent à la une de tous les journaux du week-end pour la première fois dans son histoire. Israël revient à l'heure d'hiver en même temps que l'Europe, à l'issue d'une longue guerre entre religieux et laïcs sur ce sujet. Premier surpris, les smartphones, qui mal programmés, ont déjà changé d'heure il y a quelques semaines, provoquant de nombreuses pannes d'oreillers.
Merci Michel, merci Alexandre, merci également à Richard Rifono qui a réalisé cette émission, émission que vous pouvez retrouver sur le site www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous parlerons des femmes des Émirats et de leur révolution sociale. En attendant, bonne semaine et à samedi prochain sur